Chapitre 10. Le 13 août 2016, 16h. Les ouvriers, torse nu, souffraient de la chaleur. Immobiles, courbés sur leurs pelles, assis au volant d'un bulldozer à l'arrêt, grillant une cigarette à l'ombre pour les plus chanceux. À croire que tous observaient sans y croire les fondations des murs de béton dans les rochers, comme s'il s'agissait d'une entreprise démentielle, d'une œuvre de titan. Un palais imaginé par un roi fou, impossible à bâtir. Ou alors l'hiver, la nuit, pas sous cette canicule. « C'est le futur 4 étoiles !» fit Valou à l'arrière de la Passat, en frappant des mains comme une enfant excitée. Franck conduisait calmement, concentré sur la route, paupières plissées. Le soleil l'aveuglait d'un flash dans les yeux à chaque nouveau tournant. Clotilde se retourna vers sa fille. « Le quoi ? Le futur 4 étoiles ! La Marina Rock et Mare ! Un vieux projet que Cherbonnet Spinello a dépoussiéré. Ce sera une sorte d'extension du camping des The Proct. Il y a tous les plans à l'accueil. Il doit être livré avant l'été prochain. Trop classe ! Piscine, spa, fitness, chambre à 300 euros la nuit avec terrasse privée et descente directe à la mer. » Clotilde laissa un instant son regard traîner vers le chantier. Sur un immense panneau masquant une partie des travaux, estampillé des logos de l'Europe, de la région et du département, s'étalait une photographie d'un somptueux complexe hôtelier haut de 4 ou 5 étages. Même niché dans les rochers, on ne verrait que lui à des kilomètres à la ronde, de la mer ou de la route littorale. Un étrange sentiment envahissait Clotilde, sans qu'elle puisse réellement le définir. Depuis des années, elle s'était efforcée d'oublier cette pointe de rochers inhabitée, cette route dangereuse, ce précipice mortel, sans y parvenir. Bizarrement, revenue sur les lieux du drame, chaque tournant, chaque nouvelle perspective sur ce décor de paradis l'emportait loin de l'accident, avant l'accident plus précisément. Vers toutes les années, tous les étés avant le drame, même si elle n'en avait que des souvenirs flous, même s'il ne lui restait, de ses vacances d'enfance, que la certitude d'avoir adoré cette île, ses paysages, ses parfums, cette nature qui allait pourtant la trahir. La Corse était comme elle, une orpheline, belle et solitaire. Elle avait été arrachée à sa famille il y a 20 millions d'années, au continent, aux Alpes, à l'Estérel, pour dériver en Méditerranée. Valou insistait, se tordant le cou pour détailler les premières fondations du futur palace. « Cherbonne m'en a glissé 2 mots quand il a vu que ça m'intéressait. J'aurai 16 ans l'année prochaine, peut-être même que je pourrais y travailler. » Cherbonne. Clotilde ressentit un douloureux électrochoc. Sa fille appelait déjà ce salaud de directeur de camping par son prénom. Ce bétonneur flambeur dragueur qui avait 25 ans de plus que Valou. Elle contre-attaqua sans même réfléchir. « Je comprends même pas qu'on puisse laisser construire une telle horreur. » Valentine capitula sans répliquer, se contentant de faire courir son regard du panneau à la nature vierge, comme si elle imaginait déjà l'hôtel sorti de terre. Les pires ados sont ceux qui refusent l'affrontement. Clotilde revint à la charge, sournoise. « Tu pourras toujours demander ce qu'il en pense à Papé Cassano, ton arrière-grand-père. On va dîner chez eux demain soir. Pourquoi ? Pour rien. C'est un vieux corse indépendantiste poseur de bombes, comme dans Mafiosa ? Tu verras. Et il a quel âge, l'arrière-grand-padré ? Il aura 89 ans le 11 novembre. Et il habite toujours dans sa bergerie du bout du monde ? Ils n'ont pas de maison de retraite en Corse ? Clotilde ferma les yeux. Il parvenait à la corniche de la Petra Coda, le lieu précis où la Fuego avait basculé. Plus personne ne parla. Un air de disco passait à la radio. Franck hésita à baisser le son, mais ne le fit pas. Sur le bord de la route, il n'y avait plus aucune trace des 3 bouquets de serpolet. La brigade de proximité de la gendarmerie de Calvi, à l'entrée de la ville, disposait d'une vue unique sur la Méditerranée et la presqu'île de la Rebellata. À croire qu'il fallait aux femmes de gendarmes des logements de fonction dignes d'une résidence de haut standing, vue panoramique et pied dans l'eau, pour qu'elles acceptent de suivre leur mari sur cette terre de tous les dangers. Clotilde entra seule, laissant Franck continuer en voiture et déposer Valentine sur le port de Calvi. Elle l'appellerait pour qu'il vienne la chercher dès qu'elle aurait terminé. Ce ne serait pas long. Juste le temps de déclarer la perte des papiers. Le gendarme qui l'a reçu était jeune, sportif, blond et rasé ras du crâne au menton. Son bureau était décoré de divers fanions et écharpes de clubs de rugby. Auch, Albi, Castres. Aucun club corse. « Capitaine Cadna !» fit le gendarme en tendant la main à Clotilde. Après l'avoir écouté, le flic glissa vers elle la déclaration de vol de papier d'identité avec un air désolé face à la surenchère de paperasse à remplir. Il avait un franc sourire qui n'avait rien de militaire, plutôt de bidasse détaché chez les gendarmes et content d'échapper au service militaire. Clotilde lui relata les circonstances du vol, le coffre fermé, le portefeuille néanmoins disparu, l'absence d'effraction. Au-dessus du sourire butineur du gendarme s'envolèrent deux yeux papillons, iris bleus et paupières affolées. Le gendarme se leva, observa le phare de la Rebellata qui se trouvait dans la perspective directe de sa fenêtre. Le capitaine de gendarmerie possédait une carrure fine et élancée de 3/4 aile. « Cher Bonnet Spinello va pas être content qu'on débarque chez lui. Généralement, il préfère régler les affaires de son camping lui-même. Mais si vous tenez à ce que j'enquête... » Clotilde hocha la tête. Oui, elle voulait. Rien que pour emmerder Cherbonnet. Le 3/4 repositionna d'un geste maniaque le fanion du CA Brive accroché au mur. Pour tout vous avouer, mademoiselle, je suis en poste que depuis 3 ans et j'ai encore du mal à comprendre la façon dont ça fonctionne ici. Je suis du Sud pourtant. Cadna, drôle de nom pour un flic, je sais, mais pas pour un Biterrois. Jules Cadna, mon arrière-grand-père, était le plus puissant deuxième ligne de France avant la guerre. Je me plains pas d'avoir été affecté à Calvi. Remarquez, je suis même devenue quadrilingue maintenant. Français, anglais, occitan et corse. C'est une chouette île, de chouettes gens. Il y a juste qu'ils sont vraiment nuls en rugby. Il éclata de rire tout en vérifiant les documents que Clotilde venait de remplir. Nom de famille, Baron. Nom de jeune fille, Idrissi. Prénom, Clotilde. Profession, avocate, droit des familles. Il posa la question suivante presque par réflexe. Vous êtes corse? Oui, de cœur, je crois. De la famille de Kassanou Idrissi? Je suis sa petite fille. Cadna marqua un temps d'arrêt. Ah! Le papillon s'était posé sur un cactus. Le 3/4 se figea tel un flic devant qui on prononce le nom de Vito Corleone. L'instant d'après, il tamponnait d'une poigne énergique les documents administratifs. Le dernier coup d'encre resta suspendu en l'air. Le flic leva lentement le regard vers Clotilde. Un regard de compassion. Le papillon avait quitté le cactus pour une rose. « Putain que je suis con !»« Pardon ?» Le capitaine bafouilla tout en jouant avec le tampon encreur entre ses doigts. « Vous êtes là !» Il cherchait le mot juste. Clotilde devina ce qu'il ne voulait pas prononcer. La survivante, la miraculée, l'orpheline. « Vous êtes la fille de Paul Idrissi !» parvint tout de même à enchaîner le gendarme. « Votre père est mort dans l'accident de la route à la Rebellata, ainsi que votre mère et votre frère. » Les pensées de Clotilde se bousculaient. Cet Occitan n'était en poste dans l'île que depuis 3 ans. L'accident s'était déroulé 27 ans auparavant. Depuis, des dizaines d'autres accidents, tout aussi mortels, avaient dû se produire sur ces routes serpentantes et venimeuses. Alors pourquoi ce jeune flic connaissait-il précisément le... Le gendarme interrompit le flux de ses pensées. « Le sergent est au courant que vous êtes là ?»« Le sergent ? Cesareu ? Cesareu Garcia ?» Clotilde se souvenait assez précisément de ce gendarme qui avait conduit l'enquête sur l'accident de ses parents. Cesareu Garcia. De son calme bonhomme, de sa pudeur délicate dans les questions qu'il lui avait posées sur son lit d'hôpital. De son physique aussi épais que sa voix était douce. 2 chaises pour s'asseoir et une boîte entière de Kleenex pour s'éponger le front et le cou pendant les 3 heures qu'avait duré l'entretien à l'antenne médicale d'urgence de Balagne. Elle se souvenait aussi de sa fille, bien entendu, une des ados de la bande du camping des Eproctes, Aurelia Garcia. La rabat-joie de la tribu. Non, répondit-elle enfin, je ne crois pas. Cherbon et Spinello m'a appris qu'il était en retraite. Oui, depuis quelques années. Je suppose que vous vous souvenez de lui. On n'oublie pas un physique comme le sien. Il aurait fait un pilier de mêlée d'enfer si ces abrutis de Corse savaient qu'un ballon peut aussi être ovale. Pour vous dire, depuis sa retraite, il continue de prendre 10 kilos par an. Le trois-quarts s'approcha plus encore de Clotilde. Le papillon tremblait, comme s'il se méfiait d'une plante jolie, mais carnivore. Mademoiselle Idrissi, il faut que vous alliez le voir. Clotilde le fixa en retour, sans comprendre. Il habite à Calanzana. C'est important, mademoiselle Idrissi. Il m'a beaucoup parlé de cet accident avant de quitter la brigade. Il a continué d'enquêter sur ce drame, après, des années après. Il faut aller lui parler, mademoiselle. Cesareu est un type bien, bien plus malin que les gens d'ici ne le croient. À propos de l'accident, il a... Comment vous dire ? Quoi ? Fit Clotilde en haussant le ton pour la première fois. Le papillon battit une dernière fois des ailes avant de s'envoler. Il a une théorie.